Ben, après la radio number one sur le blanc, Radio Galère vous emmène dans le vert. 88.4 pour toi et toi et toi.
Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique, animé par Lamine et Richard.
Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM, radiogalère.org et sur le DAP+, canal 8C. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal. Tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard, venez discuter et dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10. A tout de suite.
Kendo la laj say ayep xaritub ni yalla galas
Seigne Fallo
billahi
ki ko ka yakar la kendo la laj say ayep xaritub yalla galas
batil la yalla sañ ci mbiram dal ci nitam ci ko ko sop tay galas
Seigne Fallo
billahi
ki ko ka yakar la kendo la laj say ayep xaritub yalla galas
ajuma
ayube
la fen ci wer rajab jama
Seigne
Fallo
bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être avec vous jusqu'à 12h30 pour discuter, échanger, dialoguer. Et vous l'avez compris dès le départ, hein, donc dédicace, big dédicace à tous les mourides du monde et particulièrement, bien sûr, au Daïre Mourid, la Fédération de Marseille, donc Yenyeb Malen Koy dédicacé et bien sûr à Sophie Bava, donc qui est là et qui a écrit justement un livre concernant bien sûr l'histoire de cette Mouridia, en tout cas à Marseille. Richard, donc aujourd'hui vous avez compris, on a repris nos débats en tout cas avec notre laboratoire Movida, ce laboratoire de recherche d'Aix-en-Provence avec les deux chercheuses sur le plateau. Madame Sophie Bava, mais aussi avec Madame Delphine Perrin. Nous allons parler, bien sûr, de la politique migratoire africaine en lien avec les politiques européennes. Et comme je vous l'ai dit, nous allons en tout cas participer à notre manière sur cette discipline d'éveil et de réflexion, en tout cas en direction de l'élection présidentielle. Et puis, nous aurons aussi Madame Kauter Ben Mohamed, des grandes gueules hein, de RMC avec Olivier Truchot et l'autre, j'oublie toujours le nom, et Alain Marchal, voilà. Donc nous avons notre grande gueule à nous, Madame Kauter Ben Mohamed, pour nous parler de son projet aussi en direction de l'élection présidentielle. Et puis Richard, nous parlerons également de ce stade. Tu sais Richard, il y a eu le grand stade du Sénégal qui a été inauguré en grande pompe mardi avec toutes les stars africaines, Didier Drogba, Samuel Eto'o, les anciens Amokachi, ils étaient tous là, mais aussi les anciennes gloires du Sénégal, de l'équipe de 2002, hein, avec d'ailleurs Aliou Cissé, il y avait Amara Traoré qu'on a eu, l'ancien entraîneur qu'on a eu samedi dernier, non, il y a deux semaines, depuis le Cameroun avec Grand Mokoumba Seck. Il y a eu les Eladji Diouf, Tony Silva, etc., etc. Et ce stade flambant neuf, hein, Richard, a coûté quand même la bagatelle de 238 millions d'euros. Bon, pour les Sénégalais, 238 millions d'euros, c'est 156 milliards de francs CFA. Un stade de 50 000 places et qui porte surtout le nom de l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade. Eh oui, Abdoulaye Wade. Maintenant, moi, j'ai un petit problème. Abdoulaye Wade, est-ce que le président Macky Sall surfe-t-il encore sur l'euphorie de la CAN pour encore nous faire un peu ce... En tout cas, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un génie. Mais à chaque fois que je dis c'est un génie, je me fais insulter, je me fais attaquer par tout le monde. Mais écoutez, je vous ai dit, c'est un génie machiavélique quand même. On peut s'entendre sur ce mot, non? Bon, vous n'êtes pas d'accord aussi, vous êtes libre, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, je ne sais pas s'il est généreux, s'il est machiavélique, s'il est encore dans des manœuvres politiciennes ou tout simplement il fait du Macky Sall. Mais moi je pense que, comme je l'ai dit, il a déjà beaucoup fait en ce moment. Il y a l'euphorie de partout, la coupe va faire encore la traversée du Sénégal. Je suis vraiment contre, je le dis, hein, soyez content ou pas, voilà, mais parce que je ne vois pas l'intérêt de faire le tour du Sénégal avec cette coupe sans les joueurs. Encore des millions qui sont dépensés. Voilà. Et puis d'ailleurs, peut-être on aura Medoun, notre chroniqueur depuis Toulon, parce qu'apparemment j'ai entendu aussi que pratiquement tous ceux qui ont pris part au stade ont eu aussi un chèque. Voilà. Il y a eu le président Erdogan, était là-bas, George Weah, bon, etc., etc. Bon, on va y revenir. Mais sans plus tarder, Richard, on va... Qu'est-ce qu'on fait? On écoute un tout petit peu de musique et après on prend nos invités. Allez, on y va.
señ fallu moy begu mouridi lu wéral bu yalla moko def ci xol ye nun mouridu lay galas la nu bege bu wéral galas bayu mbeg mën naan ñepp la saf bunu ko tuté sun xol yi day neex nun mouridu lay galas la nuy bege kasu rajat képp kuy talibé am nga sëri bu mat sëri muy sa wasila ci yoonu bamba waaye ko ci xar xolam sëñ fallu lay bege
Richard pour ce morceau de Youssou Ndour ñung koy dédicacer bien sûr képp ku bëgg Serigne Fallou ya mom bi voilà donc Richard maintenant nous allons donner la parole à nos invités d'ailleurs big dédicace à mon ami depuis la frontière suisse du côté de Annemasse Médon Jean-Pierre Sec qui me dit que ils sont tous en train de râler parce qu'on a pris du retard. Ben écoute, ça va quand même 5-10 minutes, ça va. Hein? Commencez pas. Bon, Medoun, je sais, toi aussi. Mais à chaque fois que j'ai un peu de retard, ça y est, c'est la fin du monde. Léon, les gars, ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Bon, en tout cas, comme je vous l'ai dit, nous avons sur le plateau nos deux invités. Mais avant cela, il faudrait que je rappelle, Inna lillahi wa inna ilayhi rajoun, nous avons perdu un grand aussi au Sénégal. Donc, Elhadj Malick Sy Souri, ancien président de la Fédération sénégalaise de football. C'était avec lui que le Sénégal a atteint sa première finale de Coupe d'Afrique en 2002 face au Cameroun. Et c'est avec lui aussi que le Sénégal a disputé pour la première fois de son histoire un quart de finale à la Coupe du Monde de 2002 avec bien sûr les gens que vous connaissez malheureusement qui ne sont plus là également, Bruno Metsu, l'entraîneur donc de l'équipe nationale du Sénégal de 2002, Gilles-François Bokandé, Pape Bouba Diop, donc celui qui avait marqué le but contre la France, bien sûr les Elhadj Diouf, les Henri Camara, etc. Donc yal noko yal yeureum te xare ko aljana, ils ont beaucoup fait pour le football en tout cas et c'est une continuité. Le fruit de leur travail aujourd'hui, c'est que Aliou Cissé a profité de tout cela, de tout ce travail qui a été fait en amont pour aujourd'hui nous ramener la première étoile du Sénégal. Voilà, donc Richard, sans plus tarder, je donne la parole à Madame Sophie Bava et Madame Delphine Perrin pour parler des migrations. J'ai juste oublié de présenter une toute petite jeune auditrice qui est là, hein? Alice. Alice, juste tu peux nous dire bonjour quand même. Juste bonjour.
Bonjour.
Voilà, ça passe bien à l'antenne. Voilà, donc bonjour mesdames.
Bonjour Lamine. Bonjour Richard.
Bonjour.
Bonjour.
Delphine, vous avez un micro?
J'ai un micro.
Ah, ça va.
Bonjour.
Bonjour, voilà, ça marche.
Merci.
Voilà, donc nous sommes là pour parler donc des politiques migratoires. Et tout naturellement, comme disait Jacques Chirac, quand la case brûle, on ne doit pas détourner les yeux et regarder ailleurs. Ça brûle en Ukraine en ce moment. Et justement, vous qui êtes des spécialistes, des chercheuses donc, au niveau des politiques migratoires, je pense que vous allez avoir du travail parce que la route de la migration est déjà ouverte pour les Ukrainiens. Que pouvez-vous dire sur ce conflit en Ukraine ?
Alors,
Delphine Perrin, oui.
Oui, tu commences par l'Ukraine et effectivement, on a des événements graves extrêmement récents qui viennent d'arriver et qui risquent de créer une nouvelle crise, en tout cas dans la mesure où il y a énormément de personnes qui quittent tout d'un coup leur pays, qui sont nos voisins en Europe. Donc, on peut faire le parallèle avec d'autres départs massifs, arrivées massives de personnes. On pense bien sûr à la Syrie, aux Syriens en 2015. Mais on sait déjà que les États européens vont réagir différemment dans la mesure où l'Ukraine se situe aux frontières terrestres de l'Union européenne, qu'elle était peut-être censée rentrer dans l'OTAN, etc. Donc, dès lors, l'Allemagne et d'autres pays ont déjà dit qu'ils étaient prêts à accueillir les réfugiés ukrainiens. Ensuite, à plus long terme, on ne sait pas ce que ça peut donner. Un accueil temporaire qui se transformerait en quelque chose de, à plus long terme, c'est à voir.
D'accord. Sophie, vous voudrez ajouter quelque chose ?
Non, je voulais juste présenter Delphine aussi. Donc, c'est notre petite demi-heure mensuelle avec la mine sur le plateau du Sénégal, en lien avec Movida, notre laboratoire de recherche qui est plus intra-africain et qui travaille sur les mobilités intra-africaines et la manière dont les mobilités ressourcent nos pays, nos continents. Et Delphine est juriste et elle est spécialiste des politiques migratoires. Donc, c'est elle qui prendra la parole surtout aujourd'hui. Et elle nous apprend beaucoup sur le droit et de manière en plus très, très pédagogique. Elle arrive à nous faire aimer le droit. Donc, allez-y, posez des questions.
Bon. En tout cas, oui, je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez intervenir en appelant au 04 91 08 28 10 et que vous pouvez nous écouter partout à travers le monde, comme Pape Adam Mbaye qui est en train de le faire depuis le Sénégal sur www.radiogalère.org. Je pense à toi aussi, Gilzo, depuis l'Espagne. Donc, Gili Tchoun. Donc, www.radiogalère.org et le canal Richard, je me perds toujours sur ce truc.
8C.
Le canal le DAP+, canal 8C. Voilà, donc, juste naturellement, Madame Delphine Perrin, mais sous quelle forme on peut qualifier les mobilités africaines d'aujourd'hui ?
Ah, c'est une question très large. Sous quelle forme on peut...
Oui, donc, est-ce qu'elle est plutôt économique, politique ? Ah.
D'accord. Alors ça, c'est difficile justement à catégoriser. Alors je vais ramener à mes compétences finalement, oui. Puisque je travaille effectivement sur les politiques migratoires et sur les droits. Mmh. Et ce qui est justement marquant, c'est que dans la réalité des migrations, il est difficile de savoir si une personne est partie que pour des raisons économiques ou alors pour une rupture familiale ou parce qu'elle était forcée par un climat politique, social, etc. Mais... les États, eux, dans leur politique et dans leurs droits, vont souvent avoir besoin ou envie de mettre les personnes dans des catégories pour apporter des réponses différentes en fonction des personnes et aussi pour ne pas accepter tout le monde. Donc on voit dès lors, tu vois, en posant cette question, tu touches du doigt une des grandes causes de décalage entre les politiques et la réalité. C'est la nécessité dans le droit et dans les politiques de catégoriser, alors que dans la réalité, finalement, il est difficile et délicat de mettre des personnes dans des cases.
Mais aujourd'hui, quand même, force est de reconnaître que les Africains, pour la plupart, qui bougent plutôt pour des raisons économiques.
Encore une fois...
Non, vous ne voulez pas vous avancer sur ça.
Oui, je dirais que les raisons, elles sont extrêmement multiples, parce qu'aussi, ça dépend de quel pays on parle. Effectivement, si on parle de... Même si on prend le Sénégal, on dirait que les raisons sont principalement économiques. Mmh. Mais ce n'est pas seulement économique. Ça peut être, par exemple, pour les jeunes ou pour des femmes, d'avoir aussi des envies différentes, de découvertes, le rapport à la famille aussi, à la société. Donc, je dirais quand même que ce n'est jamais que économique. Il y a toujours d'autres éléments qui jouent. Même si on n'est pas toujours forcé à partir.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, quand on voit la politique, parce qu'on le dit en lien par rapport aux politiques européennes, quand vous avez parlé du Sénégal, je vais rajouter le Mali, donc la Guinée, tous ces pays, donc en tout cas subsahariens, en lien avec les politiques occidentales, aujourd'hui, après une immigration forcée, nous sommes face à une immigration choisie. Est-ce qu'encore, on n'est pas encore en train de payer des pots cassés, les Africains ?
Oui, alors là encore, c'est délicat hein, de parler des situations, de comparer les situations du Mali ou de la Guinée et du Sénégal. D'ailleurs, je parlais des raisons du départ, par exemple pour la Guinée. Un exemple de raison du départ, ça peut être le fait d'avoir tout fait pour la jeunesse, penser avoir tout fait pour avoir la démocratie, pour choisir ses propres dirigeants, etc. Et puis être un peu désespéré des résultats, de ne jamais pouvoir le faire et de décider finalement de partir. Ensuite, on parle de l'Europe. Alors sans doute, bon, on le sait, les migrations africaines, elles ne se dirigent pas principalement vers l'Europe. C'est vrai qu'on en parle beaucoup plus. Là aussi, il y a encore un décalage. On parlait de décalage entre les politiques et la réalité. Il y a décalage entre les discours, notamment la place dans les médias, et les réalités, puisque c'est seulement une minorité des personnes, que ce soit les Sénégalais ou les Maliens, qui pourtant bougent beaucoup, qui vont décider d'aller en Europe. La grande majorité, déjà il y en a beaucoup qui ne bougent pas de chez eux, et puis la majorité de ceux qui partent de chez eux vont dans des pays voisins, et notamment en Afrique de l'Ouest, entre pays voisins, où il faut se rappeler bien sûr qu'il y a notamment, normalement, la liberté de circulation.
Parce que peut-être c'est plus simple d'aller en Afrique que de venir en Europe ou aux États-Unis.
Alors c'est pas que c'est plus simple, parce que c'est pas qu'en Afrique qu'on voit ça. C'est aussi en Europe, c'est aussi en Amérique, c'est aussi en Asie. C'est que c'est naturel, entre guillemets, quand on veut partir, de partir près de chez soi. Pourquoi ? Parce que généralement, on y connaît des gens. Donc, on a envie de partir là aussi à l'endroit où on a entendu parler qu'on pourrait trouver du travail, qu'on pourrait faire des études ou qu'on peut retrouver des cousins, etc. Même si on a aussi des cousins beaucoup plus éloignés. Mais voilà, on va déjà penser à aller tout proche. On connaît mieux. Généralement, ça peut être une première expérience aussi. Et ce n'est qu'après plusieurs expériences dans le voisinage qu'on va penser à aller plus loin.
Vous avez dit que c'est naturel de bouger. C'est ça que vous avez dit. Et sur le plan juridique, justement, est-ce qu'on a le droit d'aller où on veut dans cette terre ?
Alors, je disais, c'est naturel de bouger d'abord près de chez soi plutôt que loin, parce que ce n'est pas naturel pour tout le monde de bouger. Mais sur le plan du droit, c'est reconnu que si l'on a envie de bouger, on devrait pouvoir le faire. En tout cas, ce qui est reconnu en droit, c'est le droit fondamental de l'individu de quitter tout pays, y compris le sien. Donc, on a le droit de sortir. Malheureusement, il n'y a pas un droit d'entrée où on veut. Et chaque État a la souveraineté, le droit de décider qui rentre et séjourne sur son territoire. Et c'est là que se pose le problème. Et j'ajouterai le problème qui se pose particulièrement aujourd'hui et pourquoi ça implique qu'on a des obstacles à la sortie au Sénégal, au Maroc et ailleurs, c'est que maintenant, l'obstacle à l'entrée, principalement le visa, devoir obtenir un visa pour arriver en France, eh bien ce visa, il est contrôlé au départ du fait de la responsabilité que l'on a donnée aux transporteurs, notamment les transporteurs privés, de contrôler les papiers d'identité de voyage. Ce qui fait que si vous ne remplissez pas les conditions d'entrée dans le pays de destination, vous ne pouvez pas sortir légalement de votre pays. Et c'est pour cela que de plus en plus de personnes qui n'arrivent pas à avoir un visa vont choisir un autre moyen de transport qui n'est pas officiel et vont passer hors des postes frontières. Et c'est là qu'ils se mettent dans l'illégalité, avant même le pays de destination.
Ben justement, j'ai bien aimé votre formule. Vous avez dit on a le droit de sortir, mais on n'a pas le droit d'entrer. Sauf que, par exemple, au Sénégal, on n'a pas le droit de sortir parce qu'on n'aura pas le visa.
C'est ça, exactement. Du fait de ces contrôles qui se font maintenant en amont.
Aujourd'hui, y a-t-il une solution pour que les gens puissent se déplacer, notamment pour les Africains ? Je dis notamment pour les Africains parce que cette émission, on l'a conçue, Sophie, en lien avec les politiques, l'élection présidentielle, etc. Quand on nous parle de migration, comme je dis pour la plupart, on ne parle pas des Américains qui arrivent. On ne parle pas des Suédois qui arrivent. Mais on nous parle des Sénégalais, des Maliens, des Comoriens, des Camerounais. Pourquoi vouloir fermer les frontières à ces Africains ? Alors qu'on va leur chercher l'uranium, on va leur chercher le pétrole. Même si la France se replie du Mali, elle est à côté, au Niger. Les intérêts économiques sont toujours là, finalement.
Oui, et puis on reste quand même dans des relations asymétriques. C'est-à-dire que, pour dire les choses un peu de manière directe comme ça, c'est que les Européens veulent peu d'Africains en Europe et sont d'accord pour qu'il y ait une mobilité des Africains, mais en Afrique. Et toutes les négociations ces derniers temps et tous les efforts qui sont faits par les Européens pour orienter les politiques migratoires africaines vont dans ce sens, qu'il y ait moins d'obstacles à la circulation au sein de l'Afrique, parce qu'il faut rappeler qu'il y a beaucoup d'obstacles pour les Africains même de circuler en Afrique, avec des obligations aussi de visa, avec des transports qui sont entravés de multiples manières. Et on peut dire que tous les Africains ont besoin de visas pour aller dans tous les pays européens. Et que, donc ça, c'est un premier moyen de contrôle, et que ces visas donc, peuvent souvent être refusés. Le seul moyen qu'il y ait plus de visas de délivrer, ou même exiger la suppression des visas, comme c'était le cas avant, jusque dans les années 80, par exemple pour les Sénégalais en France.
Tout à fait.
Il faut savoir pouvoir avoir des moyens de pression. Et actuellement, les pays africains sont plutôt en ordre dispersé. Ils sont divisés. Même quand c'est l'Union africaine qui négocie avec l'Union européenne, elle ne fait pas le poids déjà parce que eux-mêmes, les États africains, n'arrivent pas à trouver leur intérêt commun. Donc le Sénégal tout seul qui va essayer de négocier avec la France ou toute l'Union européenne pour qu'il y ait plus de visas ou suppression des visas, ça ne marche pas. Au point même que le Sénégal n'arrive pas à imposer des visas aux Français pour qu'ils viennent.
On l'a quand même essayé.
Exactement.
On l'a quand même essayé, on n'a pas réussi.
Voilà.
Est-ce que dans vos recherches, dans vos travaux, il vous arrive, je ne sais pas moi, d'être contacté par nos présidents? Je le dis tout simplement parce qu'aujourd'hui, Macky Sall, cette émission s'appelle le plateau du Sénégal, on parlera beaucoup du Sénégal. Macky Sall est le président de l'Union africaine. D'ailleurs, je viens d'apprendre qu'il vient d'atterrir aux îles Comores. Là. Voilà. Donc, il est le président de l'Union africaine. Est-ce que dans ses prérogatives, il peut tout simplement en discuter avec vous pour pouvoir mieux défendre l'Afrique face à l'Union européenne?
Je pense qu'il est assez entouré lui-même de conseillers. Il peut nous lire et nous écouter. Nous, bien sûr, nous essayons de diffuser nos travaux. On essaie même de changer les formats pour que ce soit des formats qui parlent plus aux politiques. On sait qu'ils ont peu de temps. On sait que, voilà, bon...
pour essayer de faire avancer les choses aussi. Mais comme le disait Delphine, effectivement, ils ont leurs conseillers. Et au niveau des Nations Unies, il y a ce qu'on appelle l'OIM, qui aujourd'hui est un des premiers conseillers des politiques migratoires africaines. Et peut-être Delphine va nous en parler un petit peu. Et qui est effectivement un conseiller qui a un point de vue du Nord quand même et une manière d'avancer aussi beaucoup plus sur les retours forcés que sur les migrations choisies.
Ben, je sais qu'ils ont leur conseil, hein, nos présidents. D'ailleurs, il y en a des millions, mais j'en suis sûr, ils ne les voient même pas. Voilà. Mais voilà, des personnes comme vous qui êtes, il faut le dire, qui êtes du terrain, vous êtes aussi beaucoup du côté de la France. Vous faites le trait d'union entre l'Afrique et l'Europe. À un moment donné, peut-être vous-même, quand vous voyez que vous pouvez du jour au lendemain faire vos affaires, partir au Sénégal sans aucun problème et que voir vos homologues qui sont là-bas, parce qu'il y a des Africains qui font partie de votre laboratoire, ils ne peuvent pas venir, quand même, ça vous crève le cœur, je suppose.
C'est terrible. Les refus de visa, notamment dans notre milieu professionnel, sont assez rares, mais ils arrivent régulièrement. Et c'est vrai qu'il y a une forme d'injustice sociale qu'on vit au quotidien et qu'on dénonce aussi dans nos travaux. Et ce qu'on veut surtout mettre en avant, c'est mettre des données dans lesquelles on peut puiser des réelles ressources, de montrer des faits. Parce que sans les faits, on est forcément toujours à parler dans le vide. Et nos travaux vont montrer des faits. La régulation, des politiques qui se mettent en place, les réponses à ces politiques sur le terrain, la manière dont ces politiques finalement transforment aussi les États et les nations africaines, transforment les peuples aussi, parce que c'est toutes des politiques de sécurisation des frontières, de barrages, etc., sur lesquelles travaille Delphine aussi, qui vont, comme je vous le disais la dernière fois, effectivement, les frontières européennes sont aujourd'hui au Niger, etc. Donc oui, on dénonce, on est en essayant de prendre la parole le plus souvent possible, et c'est pour ça qu'on est content aussi d'être ici, mais aussi en faisant, comme disait Delphine, des petits formats destinés aussi à des think tanks qui peuvent faire remonter aussi la parole des acteurs de terrain, forcément. Et puis, on travaille aussi avec des associations militantes de défense des droits de l'homme dans les pays africains. Mais je vais laisser la parole à Delphine pour parler un petit peu de l'OIM, parce qu'il faut savoir que les États africains se mettent en phase avec un des... avec une des organisations internationales qui dépendent des Nations Unies maintenant, l'OIM, et que ce sont eux qui font la politique migratoire aujourd'hui, et pas seulement l'Europe.
D'accord, donc l'OIM, l'Organisation Internationale des Migrations. Oui, donc Delphine.
Oui, c'est ce qu'on voit en Afrique actuellement, c'est la place de plus en plus grande qu'a prise la question des migrations. Donc on a tout un ensemble d'acteurs maintenant, effectivement, qui sont au Sénégal, au Niger, bien sûr au Maroc et ailleurs, ouais. Oui, qui vont essayer d'orienter les politiques migratoires. Et à cet égard, l'OIM a pris une place prépondérante. En plus, elle est maintenant dans le système des Nations Unies, donc elle a aussi un poids très important. Et elle arrive à influencer de manière marquante les politiques migratoires. Alors, ça ne veut pas dire que les États africains font tout ce que l'OIM dit, mais le fait qu'ils aient des personnes qui vivent sur place, qui soient toujours là justement à discuter avec les décideurs politiques, à faire des campagnes, notamment... En fait, on peut dire en gros, tout joue autour de la volonté de sédentariser les Africains.
Si vous me dites que ce n'est pas parce que l'OIM dit aux États africains de faire tel ou tel truc, j'ai un problème parce que du moment qu'on leur injecte de l'argent, en général, ils acceptent tout, non?
Eh oui.
Ici, c'est Radio Galère, on se dit tout, hein, on dit les choses, il n'y a pas de diplomatie. Hein.
Oui. En fait, il y a du tâtonnement parce que, par exemple, si on compare le Sénégal avec le Niger, il a été mis sous une très, très forte pression depuis 2015, depuis la chute de la Libye, parce que les États européens se sont dit on n'a plus notre garde-frontière libyen, il faut qu'on bloque plus en amont, donc ce sera le Niger. Et au Niger, on a vraiment eu un changement de politique très important. Il a reçu effectivement beaucoup d'argent, mais aussi beaucoup de monde sur place pour réorienter les politiques. Le Sénégal, il est aussi sous pression. Mais d'ailleurs, on a un collègue, Mamadou Dimé, qui a parlé et écrit là-dessus, qui montre que malgré ces pressions-là, le Sénégal ne va pas forcément faire tout ce qu'on lui demande. Il va collaborer. Et ça, c'est ce que font beaucoup d'États. La Mauritanie faisait pareil aussi. Mmh. Il peut, par exemple, adopter la loi de 2005 contre la traite et les pratiques assimilées dans lesquelles on a l'interdiction de la sortie irrégulière, de la migration irrégulière. Mmh. Il adopte cette loi, mais finalement, pour faire plaisir, pour montrer, regardez, on collabore. Et puis, finalement, il n'en fait rien après. Il ne l'applique pas. Mais il peut décider ensuite de la mettre en œuvre. De même pour la politique migratoire. Au Sénégal, ça fait des années que l'OIM essaie de faire adopter une politique migratoire. Le Sénégal négocie, il n'y a pas de problème, on en discute, mais il n'y a toujours pas de politique migratoire. Donc ça peut être un moyen de résistance, en fait.
D'accord.
Qui n'est pas assez fort pour dire « Non, nous, on ne veut pas de cette politique, on en veut une autre. Mmh. » Mais qui permet quand même de garder son propre agenda politique national qui tient compte de la réalité des Sénégalais, de la volonté des Sénégalais.
Aujourd'hui, l'Afrique a-t-elle les moyens vraiment de résister face au durcissement des politiques migratoires européennes?
Alors, moi, je dirais une première chose, c'est est-ce que les Africains voudraient, est-ce que ce serait dans l'intérêt des États africains, pris individuellement, de ne plus avoir de politique répressive? Nous, ce qu'on a montré dans plusieurs de nos travaux, c'est que les pays africains, ils ne sont pas forcément victimes d'une pression européenne qui demanderait davantage de répression, mais qu'au contraire, adopter des politiques répressives, c'est aussi dans leur intérêt. Parce que finalement, tous les États ont envie d'avoir un arsenal de contrôle des populations, un arsenal répressif, et ils sont ainsi légitimés quand en plus on leur dit « mais oui, vous pouvez ajouter ces délits, oui, on vous donne les moyens de contrôler ». Et donc, on l'a très bien montré, par exemple, pour la Tunisie de Ben Ali ou au Maroc, même pour le Niger qui a des problèmes de sécurité, d'insécurité, et qui finalement a aussi envie d'avoir les moyens de davantage contrôler. Donc ça, c'est une première question. Est-ce que les États africains, quand ils parlent d'alternative d'une approche africaine, est-ce que vraiment ce serait une approche plus humaniste qu'ils choisiraient? Moi, ce serait vraiment cette première question-là. Et ensuite, la deuxième... Si c'était le cas, s'ils avaient vraiment une alternative en tête, le seul moyen serait de se mettre ensemble. Et on en est loin, puisqu'on est dans une forte division et concurrence entre pays africains, notamment pour capter un peu les collaborations et les ressources.
D'accord. On va revenir. Je pense qu'on a un auditeur en ligne. Ils sont les rois, donc on les prend d'abord. Allô, allô?
Oui, bonjour Lamine. Bonjour Lamine. Excuse-moi, c'est Medoune. Voilà, j'avais une question à poser à vos invités. Oui. Aujourd'hui, nous sommes conscients que le premier cimetière pour les jeunes Africains, c'est l'océan, bien sûr. On voit qu'il y a des politiques qui ont été amorcées depuis les années 2000 en termes d'immigration. Beaucoup d'argent sont injectés dans nos pays respectifs pour justement pouvoir fixer ces jeunes à partir de projets. Mais est-ce que vous, dans vos recherches, vous vous êtes approprié cette question, sachant que la plupart du temps, tout l'argent qui est investi par l'Union européenne ou par ces organismes ne sont pas, en fait, ne reviennent pas aux impactés, ne reviennent pas aux jeunes. Ça sert à nos dirigeants à faire autre chose que cela. C'est tellement vrai que la dernière fois, un grand homme, Boubacar Seydou de Horizon Sans Frontières, a été emprisonné parce qu'il a sorti des chiffres que la Commission européenne lui avait donnés. Est-ce que vous avez cette approche par rapport à cet argent, par rapport à ces négociations, par rapport à la manne financière que c'est? Et est-ce que réellement, vous, dans vos études, vous sentez l'impact par rapport à cette fixation de jeunes, logiquement, qu'ils veulent fixer au pays?
Merci
beaucoup. Et merci.
Merci. Oui, je vous laisse répondre, Sophie.
Voilà. Je prendrai la parole après Delphine, je pense aussi. Merci pour la question. Oui, effectivement, c'est une énorme transformation qu'on observe depuis une vingtaine d'années dans les pays d'abord d'Afrique méditerranéenne et aujourd'hui jusqu'à l'Afrique subsaharienne, de tout cet argent qui arrive et qui est injecté dans le secteur du plaidoyer, le secteur associatif, tout le milieu qui en fait aujourd'hui de ce qu'on dit, nous, de la migration, qui est devenu un véritable marché dans lequel chaque association peut gagner aussi de l'argent, faire travailler du monde, etc. Et comme vous le dites, c'est vrai que ça revient rarement aux intéressés, sauf si les intéressés eux-mêmes, et ça, on le remarque dans pas mal de pays sur lesquels on travaille, donc de la zone de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique méditerranéenne, les intéressés eux-mêmes deviennent aussi par moments les entrepreneurs aussi de cette migration, puisqu'ils deviennent eux aussi, par leur expérience, porteurs de projets, et ils se déclarent dans le milieu associatif, ils créent aussi des associations d'accompagnement et de plaidoyer pour les migrants, pour faire en sorte que la jeunesse reste dans le pays, etc. etc. Donc on le voit des deux côtés. D'un côté, on voit ce marché se créer avec l'argent qui est injecté dans tous les pays, et d'un autre côté, on voit aussi que la réponse des gens, c'est de s'approprier aussi cet argent pour faire vivre des associations. Et d'une certaine manière, ça permet de remettre aussi la question de la mobilité au centre de nos questionnements. Parce que c'est vrai que prendre le risque de partir et dans toutes nos recherches, de tous les gens qui travaillent dans Movida du Sud comme du Nord, on connaît tous des gens qui sont morts, hein, forcément, parce que c'est des gens avec qui on a travaillé, qui ont pris la mer à un moment donné ou qui sont morts dans le désert. On n'a que des histoires assez terribles dont on parle, qu'on raconte. On a suivi les enterrements, on a suivi tout ça aussi. Et d'un autre côté, on voit aussi la manière dont aujourd'hui les entrepreneurs sur le terrain, les migrants eux-mêmes vont s'approprier ce projet pour essayer de faire avancer la chose. Sans devenir non plus, comme le disait Delphine tout à l'heure, forcément le bras armé des politiques migratoires européennes ou des Nations Unies, mais seulement en disant c'est aussi peut-être à nous aujourd'hui, alors les associations de défense des droits de l'homme et les associations, les petites associations moins connues, peut-être c'est à nous aussi de voir pourquoi nos jeunes veulent partir. Et peut-être qu'il y a quelque chose à faire aussi là-dedans. Voilà.
Donc finalement, c'est aux Africains peut-être de fixer leurs migrants en leur donnant en tout cas ce qu'il faut, du travail, de la sécurité, etc.
Ça n'empêche pas que le droit de choisir devrait être là. La liberté de choisir, elle devrait rester. Effectivement, l'Afrique et les pays africains sur lesquels on travaille doivent faire en sorte que leur jeunesse reste, effectivement, qu'ils soient attractifs, etc. Mais on sait très bien que la mobilité, économiquement, elle est aussi un potentiel attractif. Pas seulement pour partir et travailler ailleurs, mais simplement parce que beaucoup d'économies vont se faire dans le déplacement. Et si on empêche ces déplacements, si les frontières empêchent ces déplacements, elles empêchent aussi à certaines personnes de créer aussi leur entreprise au Sénégal ou ailleurs. Donc, d'une certaine manière, on revient toujours... C'est des choses qui doivent être menées en parallèle. D'un côté, évidemment, que les pays soient plus attractifs en termes de métiers, mais d'un autre côté, fixer les règles de la circulation Effectivement, il faudrait les revoir pour que les personnes puissent aller travailler dans un pays ou aller faire leur commerce et revenir, créer des entreprises internationales. Pourquoi, à un moment donné, certaines personnes auraient le droit d'avoir des activités économiques mondialisées et pas d'autres? Ça pose une question quand même. Voilà.
Delphine, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, sur cette question de la sédentarité, parce qu'effectivement, c'est vraiment le discours des organisations internationales, donc de l'OIM, de l'Union européenne aussi, donc qui essaie d'orienter et de donner beaucoup donc de financement aussi aux pays africains pour pouvoir fixer les personnes. On est d'accord que la manière dont se passe l'émigration actuellement révèle un problème, et également dans les destinations, etc. Donc, c'est une bonne chose de vouloir dire qu'il faut développer, avoir les moyens de garder les gens chez eux. Mais on sait que ça va beaucoup plus loin que d'injecter de l'argent. On sait que ça toucherait même au fonctionnement du système économique international. Donc, et on n'est pas du tout en train de transformer ça dans les politiques européennes. En revanche, l'autre chose, c'est que même si ça allait bien chez les gens, il faut, enfin, en tout cas, nous, c'est un peu notre approche dans toutes nos recherches, c'est qu'on est effectivement pour la liberté de choix, comme l'a dit Sophie. La mobilité, si on en a envie, on ne part pas seulement parce qu'on ne va pas bien chez soi. Ça peut être pour aller découvrir le reste du monde, ça peut être pour faire des études, ça peut être effectivement pour créer une entreprise, revenir chez soi, etc. Donc, c'est surtout cette possibilité de liberté de choix. Voilà.
Bon. Nous sommes arrivés au terme donc de notre première demi-heure, mais Richard me signale qu'il y a un auditeur qui attend et les auditeurs sont rois, donc on va le prendre. Et Richard, c'est le dernier pour cette première partie. Allô?
Oui, allô, Lamine, c'est Momar. Momar Sohna.
Ah, bonjour, Momar Sohna Diop, notre professeur d'économie depuis Paris.
Oui, bonjour, Lamine. Bon, je transmets le bonjour aussi à vos invités, hein, que j'entends, qui sont très déterminés, c'est très bien, qui font beaucoup de choses, hein, c'est bien. Mais j'ai une question, parce que quand on parle de l'immigration, bon, c'est un éternel débat, hein. Je pense que bon, je l'ai abordé aussi dans mon dernier livre pour montrer que, pour éviter en tout cas cette vague de déferler, comme le disait Abdou Diouf déjà en 1986, je pense qu'il faudrait des politiques économiques offensives, endogènes. Tant qu'il n'y aura pas de création de valeur et d'emploi dans nos pays, les gens vont partir, surtout le jeune. Mais ma question s'adresse plutôt à une immigration dont on ne parle pas souvent. C'est tous les cerveaux qui fuient l'Afrique, des médecins, des enseignants, etc., parce que tout simplement, ils découvrent que chez eux, ils n'arrivent pas à vivre de leur travail et qu'en venant, par exemple, en France, effectivement, ils se retrouvent des niveaux et des conditions de vie beaucoup meilleures. Et cette immigration, on n'en parle pas et c'est une catastrophe pour les pays africains. Parce que quand l'élite à qui on a consacré des ressources, surtout 25% de nos budgets à l'aide de l'éducation, et que ces gens-là ne servent jamais leur pays, moi, je pense que c'est pire même que les jeunes qui partent. Maintenant, la question que je pose, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que nos invités en entendent parler, est-ce qu'il y a des dispositifs qui se mettent en place, qui pourraient se mettre en place, effectivement, pour empêcher cette fuite des cerveaux-là?
Merci, professeur. Merci. Merci beaucoup. Oui, Delphine ou Sophie Bava.
Du coup, je répondrai un petit peu au professeur en lui disant qu'effectivement, on a pas mal de collègues qui travaillent dessus et que c'est le lien parfait pour... la prochaine émission, puisqu'on parlera de ça dans la prochaine émission avec nos collègues Lama Kabanji et Hicham Jamid, qui nous parleront aussi de la migration étudiante et notamment qui aborderont cette question de la fuite des cerveaux. Mais pour répondre assez rapidement au professeur, effectivement, c'est plus complexe qu'une simple fuite des cerveaux, puisque les conditions aujourd'hui d'études à l'étranger, le coût des inscriptions vont peut-être aujourd'hui empêcher à pas mal de personnes de circuler et d'aller étudier ailleurs, et donc encore une fois d'enlever la chance de certaines personnes de pouvoir circuler. Et on sait très bien que le savoir s'apprend dans la circulation aussi et dans l'internationalisation. Et donc, on va pousser peut-être des gens à ne plus venir étudier. Et on voit petit à petit, donc dans les pays sur lesquels on a travaillé, un gros marché marché se développer côté Maroc, Tunisie, qui accueille de plus en plus d'étudiants africains qui n'ont plus la chance de pouvoir étudier ni en Europe ni aux États-Unis. Mais oui, il y a des politiques. Alors peut-être Hicham en parlera la prochaine fois, parce qu'au Maroc, par exemple, ils ont mis en place toute une politique pour faire revenir la diaspora intellectuelle, entre guillemets, si on veut dire, en tout cas, les gens, voilà, en leur offrant plus de postes dans les universités et ailleurs. Mais voilà, ce sera le sujet du prochain petit passage de Movida au plateau du Sénégal.
Allez, on va le préparer. Delphine, peut-être pour le mot de la fin.
Eh bien, merci beaucoup pour votre invitation.
Eh bien, je vous en prie, Sophie, Delphine, revenez quand vous voulez. Alice, toi aussi. Oui, Sophie.
Delphine avait préparé une réponse à l'auditeur de la dernière fois quand même aussi, qui nous avait posé la question sur du coup, on y reviendra une prochaine fois sur les statistiques peut-être.
Voilà. Oui, tout à fait.
Pas de problème. Je peux juste lui conseiller, je ne sais pas s'il est encore en ligne, parce qu'un auditeur avait posé la question à Sophie sur les titres de séjour. Il avait évoqué 37 000 titres de séjour délivrés en France et une grande part de pays anciennement colonisés. Et en fait, je suis allée vérifier, bon, c'est beaucoup plus de titres de séjour, avec effectivement dans les premières nationalités les pays anciennement colonisés par la France, bien sûr. Et on peut trouver tous ces chiffres sur le site de l'INED, l'Institut National des Études Démographiques. On a énormément de données chiffrées sur l'immigration en France. Donc, c'est ined.fr.
Bon. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être venu. Et on se dit rendez-vous d'ici un mois à peu près.
Merci beaucoup.
Allez, merci
beaucoup.
Bonne émission.
Merci.
Au revoir.
Voilà. Merci beaucoup, Richard. Donc, un peu de musique et après, on enchaîne avec Madame Kauter Ben Mohamed. Richard, comme je l'ai dit, c'est l'heure des femmes. Donc, après Madame Delphine Perrin et Madame Sophie Bava, donc on s'envole pour la grande gueule, on va dire, de l'émission des grandes gueules de RMC et de BFM TV, Madame Kauter Ben Mohamed. Allô, allô.
Bonjour Lamine, bonjour Richard et bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère.
Bonjour Kauter. Voilà, bonjour. Donc comme je l'ai dit, vous êtes notre grande gueule d'aujourd'hui et à la veille de l'élection présidentielle. Donc vous comptez être spectatrice, enfin pas spectatrice, vous comptez être actrice plutôt que spectatrice. Qu'est-ce que vous préparez à Marseille ?
Exactement, parce que vous savez que je ne fais pas partie des spectateurs, mais des acteurs, tout domaine confondu, de notre ville et de notre pays, pour ne pas dire de tous les pays où il y a un souci. Donc, nous atteignons malheureusement de plus en plus, à Marseille et ailleurs, un taux d'abstention record qui est à la limite d'être un déni de démocratie, puisque l'expression citoyenne n'est plus représentée. Aujourd'hui, le plus grand parti de France et le plus grand parti de notre région et de notre ville est les abstentionnistes. Je me permets de rappeler ici qu'aux dernières élections de 2021, à savoir les cantonales et les régionales, nous avons atteint à Marseille, dans certains bureaux de vote du centre-ville et du nord de la ville, jusqu'à 88% d'abstention. Ça veut dire que nous avons des élus, des conseillers généraux, des conseillers régionaux qui sont élus avec une expression de 2 à 3% de personnes en leur faveur. C'est absolument intolérable pour la deuxième ville de France. C'est un problème de rupture entre les habitants, les citoyens et leurs représentants. C'est un problème de défiance. C'est pour ça qu'à Marseille, j'organise le 2, mercredi prochain, en collaboration avec des sportifs de haut niveau, avec les éducateurs de l'ADAP et le groupe régional de l'ADAP, donc qui est un service d'accompagnement de la jeunesse, notamment dans l'insertion et dans le sport. Une demi-journée festive sur le bas de la Canebière, au niveau de la place Charles de Gaulle, mais côté Canebière, pour inciter les jeunes, exactement, juste un peu avant le Vieux-Port, les jeunes qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales, à venir autour d'un café, d'un thé, à venir débattre avec des sportifs de haut niveau issus de notre ville, issus des quartiers populaires qui ont réussi, grâce à leur abnégation, à leur travail dans leur domaine, à savoir le sport, à non seulement sortir de la rue, entre guillemets, sortir des difficultés, mais à s'engager eux aussi politiquement. Donc tous les jeunes de Marseille, toutes les personnes qui sont mal inscrites, à savoir qui ont déménagé et qui n'ont pas fait le changement d'adresse, sont invitées à venir à notre rencontre mercredi prochain, 2 mars, de 14h à 18h, sur le bas de la Canebière, côté piétonnisé. Nous serons à leur disposition. Il y aura, si tout va bien, j'ai sollicité M. Payan à plusieurs reprises et ses élus,
le maire de Marseille,
à la démocratie participative, le maire de Marseille, effectivement, à la démocratie participative, à savoir M. Théo Chaland et M. Eddy Ramdan, qui est élu à la jeunesse, pour non seulement venir participer eux aussi à cette réunion et à s'adresser à notre jeunesse et aux mal inscrits, mais à surtout à nous mettre à disposition, ça se fait dans toutes les villes de France, je suis intervenue dans plusieurs villes de France en ce sens, un agent de la municipalité de Marseille avec un ordinateur qui pourra, qui est assermenté, qui pourra inscrire directement les personnes qui devront être munies d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile, facture de téléphone, EDF, peu importe ce qu'ils auront sur leur téléphone, autour d'un café. Et ça, c'est la première action. Et la deuxième action, moi, sur laquelle je m'engage...
Avant qu'on aille sur la deuxième action, mais quelle est la nécessité de vouloir inciter les jeunes à venir justement s'inscrire pour participer à cette démocratie?
Vous savez, j'ai eu une expérience au municipal il y a quelques années sur une liste citoyenne et il y avait des personnes qui m'ont dit « Mais madame, on aurait adoré voter pour vous, mais on n'est pas inscrit ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une telle défiance envers les politiques parce que les gens ne se sentent pas concernés, se sentent complètement déconnectés parce qu'ils ont des représentants qui sont hyper loin, des fragilités et des besoins, tout simplement, ça parle de fragilité des citoyens à tous les niveaux et pour toutes les échéances électorales, qu'il me semble aujourd'hui important d'accompagner cette jeunesse, d'accompagner ces personnes qui, souvent, ne prennent pas le temps, en fait, parce qu'ils se disent « oui, il faut aller à la mairie, il faut attendre, il faut faire la queue ». En fait, ils ne prennent pas le temps, sauf que là, ils auront tout sur place. On leur dit, le message, c'est certes, l'offre politique n'est pas très alléchante là, maintenant, tout de suite, mais vous savez, les élections, c'est comme un match de foot. On peut avoir des surprises jusqu'à la dernière seconde, y compris en termes de candidature. Pour les présidentielles, la date limite de dépôt de candidature et d'inscription sur la liste électorale est le 4 mars, donc 2 jours après notre opération. Pour les législatives, nous aurons un mois de plus et j'espère que nous aurons l'occasion de faire une autre action. Mais il nous semble important, nous, personnes engagées, personnalité connue et reconnue dans notre ville, de recevoir cette population, cette jeunesse éloignée, et de lui dire que non seulement elle a le droit, mais qu'elle a le devoir de voter, parce que c'est un droit que nous avons acquis il y a très peu de temps, et en particulier les femmes, hein, ça date de moins d'un siècle quand même, cette histoire où nous pouvons voter. Alors on peut ne pas être d'accord, il faut alors voter blanc. Je sais que des votes blancs, vous allez me répondre qu'ils ne sont pas encore comptabilisés. Ouais. Nous avons aussi, nous, militants, politiques, etc., amené un combat de ce côté-là pour que nos institutions reconnaissent le vote blanc, parce que c'est une vraie expression d'un mécontentement de projets politiques qui ne correspondent pas aux besoins de la population. Ça, c'est un deuxième combat. Mais le premier combat pour mener le deuxième, c'est d'être inscrit sur les listes électorales. Et ensuite, moi, j'engage toute la jeunesse et tous les habitants, parce qu'avec 88% d'abstention, au niveau local de la ville, dans certains quartiers, 66% et demi d'abstention au niveau régional et 66% d'abstention au niveau national, nous avons un vrai problème de démocratie et d'expression du peuple et de reconnaissance du peuple. On se demande qui représente nos élus dans nos institutions locales et nationales. Et moi, j'engage toute la population marseillaise et en particulier la jeunesse. Et je serai là et je prends l'engagement sur vos ondes aujourd'hui de les accompagner, comme je le fais déjà, et vous le savez, mon cher Lamine, sur plein de dossiers, de les accompagner pour qu'ils prennent leur part et qu'ils prennent leur place dans nos institutions, dans les mouvements politiques et les partis politiques, parce que sans l'engagement des jeunes, nous n'aurons pas aussi leur représentativité en termes de projet, en termes d'ambition et en termes de compétences pour leur ville, pour leur quartier et pour leur vie tout court.
D'accord. Donc rappelez-nous, juste pour la dernière question, qu'est-ce qu'il faudra que les jeunes ramènent le mercredi?
une pièce d'identité et un justificatif de domicile.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Kaouter.
Voilà.
Et on
j'oserais utiliser un grand slogan d'une grande enseigne que je ne citerai pas. Venez comme vous êtes, on vous accueillera. J'ai une équipe de bénévoles engagés qui est exceptionnelle. Des jeunes qui sont engagés qui sont exceptionnels. Ça sera un moment festif, ça sera un moment drôle où personne ne jugera personne, où il n'y aura pas de bêtises qui seront dites. Il n'y aura que des questions intelligentes, des questions auxquelles on répondra avec du cœur, avec de l'empathie. Et on se mettra au niveau de notre public, de nos concitoyens, de nos frères et sœurs marseillais qui sont déconnectés et nous les ramènerons petit à petit à avoir leur place dans leur ville, dans leur quartier et encore une fois dans leur vie. Et merci,
merci
à
beaucoup.
Vous de me donner cette disponibilité.
Merci
pour
beaucoup Kaouter Ben Mohamed. Et comme je te dis, tu as largement la place aux grandes gueules sur RMC.
Je te remercie infiniment
journée.
Pour ton soutien.
Merci
beaucoup.
Merci à toi. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Voilà donc, merci Richard. Écoute, on refait une toute petite pause musicale avant de prendre Madame Seyni Nirsek, présidente de la Fédération sénégalaise de football féminin pour la qualification historique de l'équipe nationale du Sénégal de football féminin à la Coupe d'Afrique. Allez Richard, on enchaîne et après on revient un peu sur l'inauguration du stade. Est-ce que Macky Sall a bien fait de donner le nom de Abdoulaye Wade? Est-ce qu'il n'est pas encore dans des manœuvres politiques? Parce qu'il a donné le nom de Abdoulaye Wade. Mais je n'ai pas aperçu Abdoulaye Wade, je n'ai pas aperçu son épouse, je n'ai pas aperçu ses enfants, je n'ai aperçu personne. Abdoulaye Wade lui-même, on ne l'a pas entendu parler. Apparemment, il y a des communiqués qui sortent de partout. Voilà, mais écoutez, hein, parce que c'est à la dernière minute, hein. Tout le monde pensait peut-être à Pape Boubodjo. Bon, il a son musée. On pensait aussi à mon homonyme, Richard Lamine Diack. Hein. On pensait aussi à d'autres. Mais bon, Macky Sall est toujours là. Et je crois qu'il est encore le maître du jeu. Eh oui, je sais que je vais vous faire incendier. Mais il est le maître du jeu, les gars. Allez, Richard, un peu de musique. N'oubliez pas d'aller mercredi pour les jeunes. Donc, comme il a dit, Kaouter, et même les moins jeunes aussi, hein, allez vous inscrire, allez faire vos changements pour pouvoir voter. Les élections présidentielles arrivent à grands pas. Et donc... vendredi, le dernier candidat va se déclarer. Richard, je ne sais pas si c'est le dernier candidat qui ne s'est pas encore déclaré, mais qui est président de la République. Voilà. Et apparemment, il va se déclarer le 4 vendredi. Et le samedi, il sera au Parc Chano, le premier grand meeting de Marseille. Voilà. Et puis, je crois que Fabien Roussel est déjà passé. Bon, Mélenchon, notre député, il doit après peut-être venir traîner par là, hein, parce que des fois, on ne le voit pas trop. Voilà. Et puis, les autres, ce n'est pas la peine d'en parler, parce qu'on va les éliminer. Tu es prêt? Allez, on y va, Richard.
Ma jour sama dom bu jige ma bet sama dom bu jige ma yar ko nin mi yare jige ligi bis mom de mi ñu mu tag mu suñu xol fess da du teñ tag ko ma jema def ci mom di ko ju ba yalla def mu gimmi dom ju ba bis ñu mu xey ndor di gis mbar ñu wañe ni ni dotul gone ndam di ko rir di ma rir di rir yaay ma jour sama dom bu jige ma begg sama dom bu jige ma yar ko ni ñu yare jige ak bis mom dem ñu tak ñu suñu xol fess da du teñ tak ko ma jema def ci mom di ko ju ba yalla def mu gimmi dom ju ba bis ñew mu xey ndor di gis mba ñu ragne ni ni dotul gone ndam di ko rir di ma rir di rir yaay
manu malu dul mayela manu ñu lu dul mayela.
Voilà Richard, on repart à l'antenne. Allô.
Oui, Lamine, bonjour.
Oui, bonjour, Kokan Lawaye.
Birachoun, comment va Lamine?
Birachoun, notre entrepreneur d'Aix-en-Provence, Nakamou.
Lamine, ça va?
Oui, ça va. Alors, yo, comme tu es un grand sportif, voilà, nous guisons sur l'inauguration stade. Bi.
Ben écoute, l'inauguration, Lamine, ben, c'est à magnifier. Mais comme j'ai toujours dit, dans un pays comme le Sénégal, s'il n'y a pas la communication, il y a toujours j'arrive même pas à trouver le mot.
Quoi. Ah, dysfonctionnement.
Voilà, dysfonctionnement, manque d'entente aussi. Uh-huh. S'il n'y a pas de communication, il y a un manque d'entente. Uh-huh. Parce qu'au départ, si on nous avait parlé du stade, les financements, les appels d'offres, tous ces éléments-là, uh-huh. Je pense que les Sénégalais sont assez réalistes uh-huh. pour analyser l'ampleur de ce qui est le financement de ce stade. On uh-huh. est d'accord.
Tout à fait.
Mais on nous crache 156 milliards, point barre. Ça a été réalisé par qui, par comment, enfin, c'est compliqué. Mais bon, d'un autre côté, le donner le nom du stade au président Ablaye Wad, c'est pas une mauvaise chose, mais il y avait d'autres priorités, je pense, hein, en personnalité. Il y avait d'autres priorités, je pense, hein, à mon sens. On pouvait lui retourner sa renaissance, là, le statut de la renaissance. Là.
Le monument de la renaissance.
Ablaye Wad, un exemple, il y aurait plus de sens. Mais le sport, je veux dire, il y avait d'autres solutions, il y avait d'autres alternatives. Bon, je vais pas rentrer dans ce débat. Bon, il faut magnifier le stade. Bon,
en tout cas, on est content en ce moment parce que
le
président inaugure vraiment en ce moment, c'est l'euphorie totale. Donc, on a la Coupe d'Afrique, on a le train express régional, on a le stade, on va avoir d'autres choses. Donc voilà, Macky Sall est en tout cas le vent en poupe en ce moment.
Oui, mais Lamine, je suis d'accord sur tous ces points-là, mais quand même, il y a des priorités pour un pays comme le Sénégal. Ça, c'est une chose qu'on a toujours décriée. Il y a des priorités pour le Sénégal. Hein, entre la santé, l'éducation et autres, mm-hmm. il y a des priorités. Bien maintenant, ça. Le transport, c'est quelque chose de très bien, mais il y avait d'autres solutions hein, pour pallier et puis éviter autant de milliards gaspillé, je dirais, hein, il faut le dire, gaspillé pour ce TER. Mmh. Il y avait d'autres priorités et d'autres structures à mettre en place pour que le transport puisse être bien géré. Bon, mais comme je dis toujours, dans le manque de communication, on se retrouve toujours dans des galères comme ça, malheureusement. Bon. Mmh. Et d'un autre côté, je vais continuer bon, par rapport à l'intervention de nos chers dame de tout à l'heure là.
Ouais, les chercheuses de l'université.
Mais je pense qu'il faut une émission beaucoup plus élargie pour beaucoup plus diversifier les questions et les réponses. Mmh. Je pense qu'il faut les inviter une prochaine fois. Mmh. Mais je les encourage dans leur fonctionnement. Hein. Et puis on magnifie leur présence. Voilà.
Ben, en tout cas, j'essaierai, comme on leur a dit, donc, de les avoir au moins une fois par mois, parce que vraiment, elles font des études très intéressantes. Je lis vraiment mm-hmm. ce qu'elles font. Et donc, du coup, voilà, nous avons décidé ensemble d'en faire profiter le maximum de personnes. Surtout, elles travaillent sur les migrations africaines, voilà, sur tous les mm-hmm. types de migrations africaines. Et je pense que avoir à ses côtés des personnes comme ça qui font un travail remarquable parce qu'elles sillonnent toute l'Afrique, donc tout le temps pour apporter des solutions. Donc, ce serait bien, comme je dis, que nous soyons un peu au courant de ce qui se passe. Parce que quand on a des Sénégalais comme Boubacar Seye, Medoul l'a dit tout à l'heure, qui se font
exactement,
arrêter
ouais,
quand
ouais.
elles sortent certains chiffres.
Des chiffres.
Donc c'est bien
d'avoir
des Françaises, en tout cas des non-Sénégalais, qui peuvent sortir des chiffres sans se faire arrêter.
C'est clair, c'est voilà. clair. Mais sinon, de notre côté aussi, Lamine, je voulais juste faire un petit rappel concernant notre ville de Marseille. Mm-hmm. Il me semble que tu as eu à demander à certaines personnes qui gèrent la mosquée Bilal de venir s'exprimer au sein
ah,
de la
parce
radio.
Que votre problème de mosquée continue encore.
Non, c'est pas histoire de problème de mosquée Lamine, ouais. mais c'est histoire de personnes en fait. Voilà, la mosquée n'a pas de problème, mais c'est une histoire de personnes. Parce que si je me rappelle, t'as demandé à ce que les dirigeants de la mosquée viennent s'exprimer au sein de la mosquée, hein, mmh. par rapport à la gestion, par rapport au fonctionnement, par rapport à beaucoup de choses. Mais il y a les imams qui se sont exprimés
sur le plateau. Oui.
Une partie de la population s'est exprimée, mais depuis lors rien du tout. On n'a pas eu de nouvelles. Ça c'est un manque de respect en premier temps par rapport aux gens qui leur ont confié une mission et que leur mission a été terminée depuis je sais pas 3 mois ou 4. Donc pas de résultat, pas de réponse. je veux dire, c'est pas correct de leur part. Et je tiens à citer particulièrement M. Mbaye Diop et en plus M. Motsek, qui est le président de la mosquée, qui par éthique devait se prononcer. Parce que si on te confie une mission, si tu n'arrives pas à gérer la mission, mais il faut avoir l'honnêteté de faire face à la population, de leur dire « tenez vos lingués, je n'arrive plus à gérer ». Mais leur mission a été terminée depuis il y a plus de 3 mois. Mmh. On leur demande juste de faire une assemblée.
Bon.
Qu'on sache exactement qui est aujourd'hui en place, qui fait quoi, qui est qui.
Bon.
Mais pas de nouvelles. Donc, par rapport à Salamine, mmh, on a créé un petit groupe de médiation. Et par rapport à ce groupe de médiation-là, on va faire l'assemblée avec ou sans eux.
Parce que
la dernière fois, on avait demandé de faire une réunion pour une communication pour savoir ce qui se passe au sein de cette mosquée. Mais malheureusement, Mbaye Diop a demandé à ce qu'il y ait un boycott, ce qui est minable, quoi. Mmh. Bon, de notre côté, la population a répondu massivement. Ils ont été présents. Ils ont, ils nous ont demandé le pourquoi. Ils ont eu des réponses. Donc, avec ou sans eux, il y aura une assemblée générale et la date sera communiquée ultérieurement. Voilà.
Bon, en tout cas, le message est bien entendu. Et avant que vous raccrochiez, je le dis, Mbaye Diop, vous avez été cité nommément. Comme j'ai l'habitude de le dire, vous avez toujours votre droit de réponse quand vous voulez. Voilà. En tout cas, grand, merci beaucoup pour cette information.
Il y a aussi le président Motsek. Il y a aussi le président Motsek. Parce que si on se dit président, qu'on n'arrive pas à donner des réponses à la population, c'est un manque de respect. Voilà, bon, tout simplement.
En tout cas,
parce que quand on dit président, présider, c'est prévoir. Voilà, donc la dernière fois, mais c'est avec justesse que l'imam Ba a failli s'accrocher avec un jeune arabe là, qui est venu, soi-disant de la part de Mbaye Diop, c'est lui qui devait faire la prêche et la prière. Donc il y a eu un petit accrochage, mais l'imam Ba lui a fait comprendre que je suis là, vous n'avez rien à faire ici, laissez-moi faire ma prière. Mais
donc les deux
ça,
imams ont failli se battre quoi dans la mosquée.
Mais c'est exactement ça, Lamine, tout simplement.
D'accord.
Parce que M. Mbaye Diop de son coin là-bas a dit va diriger la prière. C'est pas comme ça. Je peux pas venir aujourd'hui demander à quelqu'un de venir se mettre à ta place pour gérer la radio. Mmh. On est d'accord.
Mmh.
Voilà. De notre côté, on est en train de fermer les yeux sur quelque chose de très grave, parce que comme je vous dis, toutes les personnes responsables aujourd'hui à Marseille qui n'ont pas le courage d'appeler Mbaye Diop, de lui dire faites l'Assemblée générale et qu'on mette les choses d'accord, seront tous responsables et je le dis. Voilà.
Bon. En tout cas, merci beaucoup du message. Merci et puis très bon après-midi.
Merci l'ami.
Merci beaucoup.
Désolé.
Voilà, donc il n'y a pas de souci. Comme d'habitude, la mosquée encore la mosquée. Bon, je ne vais pas épiloguer sur ça, mais en tout cas, toutes les personnes qui sont citées, que ce soit Mbaye Diop, Motsek, etc., voilà, à chaque fois que vous voulez apporter des réponses, des répliques, la radio, vous êtes ouverte. Voilà, donc, Mingi Nondal. Voilà, mosquée bi dal lu yalla xam doyna yalla ñu yalla dimbali jappale ñu ba nga xamné jamm dina fi exi wat ba ñu ñew di julli tranquillement sans aucun problème. Richard, il y a des attentes à l'antenne, on y va. Allô, allô.
Allô.
Oui, bonjour.
Ouais, mais Lamine.
Wow.
Lamine, je t'appelle de Dakar là, mais xala yeen sen mosquée Marseille.
Ouais, mais yow la kan déjà.
Yow
la kan. Yow la kan, yow la kan.
Man la Diagne, d'accord, je préfère te dire Diagne, tu vois un peu qui c'est.
Ok, Diagne, d'accord. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous avoir depuis le Sénégal.
Eh ben, ouais, oui,
parce
mais
écoute, on est...
Non, les gars, nous avons dit samedi, Lamine, nous avons dit samedi pour capter Radio Galère. Mais il faut New York, à faire 2 heures ou 3 heures de temps, quoi.
Jérôme, c'est vrai que...
Parce que c'est très intéressant, bon, écoute, c'est... Moi, je m'accroche maintenant dessus, quoi. Si vous voulez que je flippe un peu parce que je me dis Ligue Moudia.
Bah, en tout cas, ça fait plaisir.
Je vais vous dire. Voilà, mais écoute, content de t'entendre et puis bon courage. Hein.
Ben, merci beaucoup, vraiment,
c'est très gentil. Bien des choses à Richard et à toute l'équipe. Quoi.
Merci, c'est très très gentil, merci beaucoup.
Bonjour, merci.
Et puis bonjour à ma soeur aussi.
Merci, Inch'Allah, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, ça fait plaisir en tout cas de vous avoir de plus en plus du Sénégal. Et d'ailleurs Richard, je te le dis, il y a quelqu'un qui nous a rendu hommage, mais je ne pensais même pas qu'il te connaissait. Je le dis, c'est un très grand journaliste, Baba Aïdara, le grand journaliste qui est aux États-Unis, que nous avons interviewé ici, qui a été l'un des premiers à parler de l'affaire du pétrole du Sénégal. Voilà, Richard, donc, qui t'a rendu hommage, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, et ça fait plaisir de savoir que nous sommes écoutés un peu partout.
Merci à lui, Lamine. Merci beaucoup.
Voilà, en tout cas, merci beaucoup, grand Baba Aïdara. Et puis, merci aussi à Moumoudou Ngom, donc un expert fiscaliste au Sénégal. Lui aussi, le samedi après-midi, si l'émission tarde à venir, donc il me dit, boy, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc vous êtes assez nombreux, vraiment, depuis le Sénégal, à nous dire que vous attendez notre émission pour pouvoir, en tout cas, y apprendre beaucoup de choses. Ça nous fait plaisir. Et donc, du coup, c'est un sacerdoce parce que ça va nous mettre la pression pour essayer encore de faire de notre mieux, de cultiver l'excellence. En tout cas, merci beaucoup, tonton Diagne. Merci beaucoup, tonton Iboumbaye. Merci beaucoup à vous tous qui nous soutenez vraiment de partout. Merci beaucoup à Mamso depuis les États-Unis aussi qui transfère les émissions à grande écoute. Richard, je crois qu'on va prendre le dernier auditeur et on arrête. Allô, allô?
Oui, allô, bonjour.
Oui, bonjour, Djedja.
Ça va,
Nakamo?
Ça va,
alhamdoulilah, ñi ngi fi rek.
Ñu ngi lay di deglu, ñu lay ziar yak la yak Richard.
Ñu di dolli ziar bu baax.
J'espère que tout va bien.
Bon, ça va, ñu lay deglu. Alors.
Voilà, mosquée de Marseille là. Donc xam nga ñun kay liñuy reprocher suñu politique yi ñun suñu bop non lañuy défé, on fait que bricoler, duñu régler dara, duñu traiter dara à fond. On en parle, on crie, après on oublie. Donc je pense que moi, ce que je fais, c'est que des années, ça va durer comme ça. Bon, je ne sais pas. Donc, qui va mais c'est Bira, je pense. Bira Tchoun Mone, il faut que nous nous fassions.
Bira Tchoun, tout à fait.
Oui, Assemblée Générale. J'espère qu'il faut que nous nous fassions. Il faut que nous nous fassions. Il faut vraiment être vigilant et insister. Quoi. Parce que sinon, nous n'avons qu'un gnaque, nous, pour des problèmes de personnes, quoi. On a toujours...
Non, mais c'est terrible. Ouais. Je suis parti en vacances au Sénégal. J'ai croisé un Sénégalais. La première des choses qu'il me fait, il me dit, « Boy, c'est une mosquée. » Je dis, « Bonne mosquée. » Je dis, « Mais comme Marseille, il y a des émissions. » Voilà, et ça fait un peu... Voilà, quoi. Donc, les gens, ils suivent, quoi. Parce que maintenant, malheureusement...
Lamine, liñuy wax ci radio kay ñu ko koy dégg donc Marseille kay si wuñu ñu déjà ak suñu réputation Marseille mom xam nga ça passe pas une aperçu donc oui non dal non mais c'est triste dal ñun sénégalais yi ni ñi nekké dafa doy war
c'est tout simplement une entente qu'on peut créer def assemblée générale on n'en parle plus le maire gagne
et puis il faut que l'assemblée générale donc je veux dire que bo assemblée générale amul est-ce que ñom mënañ def assemblée générale sans que ñi nek ci bop bi téwuñu parce que pour changer le bureau il faut que tout le monde soit présent le bureau sortant soit présent je pense que il y a vraiment un problème dans les que vraiment nañu bay di jaxé nit ñi ak nar yi parce que vraiment ñu ngi ki suñu bop dal ñu ngi xéblu suñu bop dit comme ça par rapport ak nar yi xam nga bon voilà donc xam nga buñu démé ba suñu imam bi di am problème ak imam nar yi déjà wéguñu ñu leen di joxat encore occasion pour nous affronter xam nga dal bu yagge dañu ko nangu dal.
Ah, ça c'est sûr. Xam nga lepp mënuñu ko wax souvent ci radio yi, mais il y a une véritable tension et des paroles yo xamné soko déggé da ngay yém da ngay tite.
Non, c'est sénégalais Lamine, c'est sénégalais de luma la wax né du dañ dal. Sénégal mom mu ngi non dal, ñun mom ñu ngi ni rek. Ñu dañ nañu wax. Bon, par rapport ak inauguration bi ak tour stade bi mom bon. Après Wade vraiment bon, xamna dañu improviser affaire bi rek au dernier moment pour faire effet quoi, effet de bombe des trucs comme ça, mais bon, c'est pas sérieux quoi, il y a des choses qui sont pas sérieuses, donc voilà.
Ben surtout que gisuma fa dara ci lo xamné Ablaye Wade, bon, il y a grand Mayoro Faye voilà qui essaie de le représenter,
mais c'était pas préparé en fait, ça c'est un coup de bluff ou un coup politique quoi, de maquis comme ni koy waxé dal. Donc parce que bon voilà, il est né écrit qui est stade bi, est-ce que bin nañ ci tour Ablaye Wade bi des trucs comme ça en lettres dorées des
trucs
comme
ça. Non, il y en a pas.
Oui, mais il n'y en a pas parce que avec B au dernier moment, ça a décidé que bon voilà pour bon il est toujours dans l'euphorie de de la Coupe de la CAN. Donc, mais bon, les gens, je crois, doivent rester vigilants quand même. Dans la dernière fois, en tout cas, les opposants, restent vigilants parce que il y a des choses qui se trament encore. Bon.
Que les gens soient vigilants.
Oui, ouais, très vigilant parce que moi ça ne m'étonne pas que Karim Niou n'est qu'au moment de remplacer Macky Sall. Hein. Faites attention, là. Donc tout est possible là, avec lui. Donc,
de toute façon, Ouattara Kohamne et voilà, Kangambouré du Sénégal, c'est un boy. Macky Sall et Ablaye Wade Riro n'y ont pas.
Non, mais, yen, ok, man, lol, y a que n'a la mine, qui nous dit que Macky, c'est le PDS avec Macky. Hein. Mais qui Ahmed Aïdara, tu crois que PDS, ils cautionnent. Hein. Mm-hmm. Donc ils vont lui rendre la vie difficile. Hein. Je pense que bon, c'est pas gagné pour lui, quoi. C'est pas gagné pour lui. Et que Macky, 80% de Macky PDS l'a joué. Donc est-ce que nous devons devenir héros? Devenir héros. Devenir héros. C'est que politique règle de femme avec Kouba, des trucs qui ont ramené. Après, mais ils vont dépasser tout ça là, ils vont se retrouver. Hein. Ils vont se retrouver. Il faut qu'ils s'organisent, il faut qu'ils essayent d'avoir quelque chose de solide. La dernière fois, appel Bob Ladef entre Sonko et Khalifa, il faut que vraiment que ce soit du vrai, quoi, du solide, quoi. Sinon, ils ne feront pas face. Hein. Donc, voilà, à PDS, mom, ne vous inquiétez pas. Moi, ça ne m'a jamais étonné que demain, nous n'aimons Karimion, donc mon candidat à Macky Sall. Ne vous étonnez pas ça, malgré tout ce qui s'est passé.
Bien
donc,
sûr.
C'est ça la politique d'Al. Il faut que nous comprenions le mot politique d'Al.
Bon. Voilà. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Dieya. Et puis, on te souhaite une excellente après-midi.
Merci, pareil, ma
Merci,
vous.
Merci. Allez, au revoir. Voilà, donc, Richard, je n'arrive pas à voir la présidente de la Fédération sénégalaise de football, Madame Seyni. Mais bon, Khamnani, on a un peu débordé. Là, on avait dit vers 11h40. Mais bon, voilà. Donc, du coup, j'ai vu qu'elle attendait. Mais bon, on essaiera de la voir samedi prochain. Il n'y a pas de souci. Donc, elle aussi, elle a plein de réunions en ce moment, vu toute l'euphorie. Voilà. Mais comme je lui ai dit, j'espère que vous allez aller à la Coupe d'Afrique des Nations, gagner la Coupe pour que le président Macky Sall vous donne à chacune d'entre vous, comme il l'a fait pour les hommes, deux terrains de 200 mètres carrés et de 500 mètres carrés et 50 millions de francs CFA chacune. Voilà, c'est mon souhait. Donc, c'est ni. Bon, par contre, on se captera samedi prochain, mais c'est trop tard. Donc, Richard, on va finir avec Kadhafi, hein, qui va nous donner les dernières informations. Notre ami comorien Kadhafi Junior, bonjour.
Bonjour Lamine, bonjour. Pour parler de la visite du président Macky Sall, ça y est, il est déjà arrivé aux Comores.
Ça y est, les drapeaux verts, jaune, rouge.
Ouais.
Voilà, et les Véripias.
De lui souhaiter une très bonne visite, et aussi que ce ne soit pas la dernière, quoi. Qu'il y en aura d'autres. Lamine.
Mais non, on a des...
Parce que vous savez, les Comores et le Sénégal, c'est une famille. Hein. On a, bon, historiquement, le Sénégal est un des pays qui accueille autant d'étudiants comoriens, des élites, des cadres, des fonctionnaires. Et même, il y a eu des professeurs sénégalais qui ont enseigné au lycée à Moroni, la capitale. Moi, je me souviens. Yes. Il y a un certain Diop, paix à son âme, c'est un grand professeur. Il est très, 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 très bon, quoi, Lamine.
D'accord.
Donc, pour parler du salon de l'étudiant, du lycée qui se déroule à Marseille, au Parc Chanot.
Aujourd'hui, hier et aujourd'hui.
Au Parc Chanot, donc, Lamine, pour vous signaler que ce salon d'étudiants très très fréquenté par les lycéens, les futurs bacheliers sénégalais. Moi, j'en ai vu plusieurs là-bas, j'y étais. Donc, pour cette année, le profil, il y a pas mal de choses parce que ce salon sert pour beaucoup de choses. C'est l'insertion, la formation, l'orientation. Donc, quel que soit Paris, Marseille, ces salons d'étudiants, de lycéens, c'est des rendez-vous incontournables. Tu laissais la mine puisque tu étais étudiant, tu as fait des cours, tu as passé à l'université.
Tout à fait.
Donc, il y a aussi le salon de l'agriculture à Paris qui est inauguré par le président Macron. Et pour
il y a les animaux là-bas, c'est ça?
Les animaux. Et je te demande, est-ce que là-bas, à Dakar, est-ce qu'il y a des écoles pour l'agriculture, enfin, d'étudier des... En ce qui concerne l'agriculture.
Ah oui, tout à fait. On a des écoles agronomiques. Oui. Tu sais que le Sénégal est d'abord un pays agricole. C'est que juste on a laissé tomber les cultures vivrières au profit des cultures donc, industrielles. D'ailleurs, les Sénégalais n'ont plus de terres. Les seules terres, les quelques terres qui sont là-bas, voilà, ben, elles sont absorbées beaucoup par les Chinois. Ouais. Voilà, donc par les Turcs, par les Anglais. Donc oui, les autres sont venus prendre nos terres. Donc nous, on retourne à la pêche.
Oui, pour
la cueillette.
Pour parler un peu de la des partis de la politique.
Etienne vient de me rappeler. En plus, c'est vrai. La pêche aussi, on a les chalutiers qui nous prennent tout. Donc nous, maintenant, on est à l'état primaire, la cueillette et la pirogue.
Oui, avec de la politique, Lamine, pour parler un peu de la crise en Ukraine, est-ce que là-bas, en Ukraine, il y a des étudiants sénégalais et les ressources sénégalais, comment ils s'en sortent?
Effectivement, il y a des étudiants sénégalais, il y en a beaucoup. Bon, je n'ai pas lu l'article, mais je sais que Mme Aïssata Tall Sall, notre ministre des Affaires étrangères, donc est en train de s'en occuper. Peut-être pas comme vous, parce que je sais que les îles Comores ont rapatrié, donc les étudiants ukrainiens, je ne sais pas où, mais je pense que les Sénégalais vont les aider.
Oui, pour parler du sport, Lamine, pour vous signaler que le Sénégal est la bête noire des Égyptiens, puisqu'en en basket, donc pour la première pour les éliminatoires de la basket 2023, le Sénégal a battu l'Égypte 75-57. Donc, pour vous signaler que Sédou Mané a fait un don à son ballon d'or pour l'offrir au musée Baba Diop. Bouba Diop.
Voilà, donc, au stade.
Au stade. Mmh. Et pour ce qui est de la Coupe d'Afrique, Cannes 2022, pour les qualifications des Sénégalaises, ça n'a pas été évident, Malamine, ça a été tiré par les cheveux. Et vous êtes, les filles sont très fortes, sont très bons au pénalty, puisqu'il a fallu au pénalty. Ils avaient gagné 1-0. Et les Maliennes ont égalisé.
Tout à fait.
Et c'était au tir au but qu'ils ont gagné cette qualification. On les souhaite bonne chance.
Merci beaucoup. De toute façon, tu auras l'occasion samedi prochain d'en discuter avec la présidente de la Fédération sénégalaise de football, Mme Seyni Nir, que je n'ai pas pu avoir maintenant, mais j'en suis sûr, samedi prochain.
Lamine, un mot pour terminer. Ce soir, il y aura un match de rugby très, très important. Au Sénégal, on aimerait le rugby.
On joue le rugby
contre,
au Sénégal?
Oui, le rugby. Il y a des passionnés de rugby au Sénégal, France.
Gringalais comme nous sommes, on joue au rugby.
France-Écosse, Lamine.
France-Écosse.
Enfin, on souhaite aux Français qu'ils gagnent ce match pour réaliser leur grand chelem. Quoi. Bon.
Ben, donc, ça va. Voilà, en tout cas, les Sénégalais qui sont des Gringalais, moi, je les vois plus jouer au foot, au basket qu'au rugby. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Kadhafi, pour toutes ces informations. Merci beaucoup, Richard. Merci, Étienne. Et donc, je fais une grosse dédicace à Madame Mariem Sirelli, donc qui était au consulat général du Sénégal à Marseille. Mariem, donc un big bisou. Grand Diego Kouyaté, donc grand Diego Kouyaté, voilà. Donc il me courit souvent. Grand Issa Ndoye, donc Nyom Papsek depuis le Sénégal. Mère Ndeye Niari depuis le Sénégal. Mère Fat Mbodj depuis le Sénégal. Et bien sûr, mon ami Papa Adama Mbaye. Allez, à samedi prochain.